Et nous passons à Monsieur Jean-Michel Toulouse, budget supplémentaire.
Donc il manque 13 voix, c'est ça ?
Monsieur Toulouse, s'il vous plaît.
Il manque 13 voix.
Vous avez la parole, le budget supplémentaire.
Monsieur le maire, juste une petite technique.
Non, permettez-moi de diriger la séance.
Oui, mais c'est une question
Monsieur
de technique.
Monsieur Toulouse, mais il est pas élu, vous avez la parole.
Il n'y a pas la majorité.
Il est pas élu. C'est la majorité des exprimés.
Monsieur Toulouse. Okay.
Oui, alors donc là, on est là pour étudier donc, le budget supplémentaire. Pardon, qui permet l'ajustement du budget principal. Nous avons ajusté le budget principal donc d'une fête d'une meilleure connaissance des dépenses et recettes effectives. On y intègre les reports d'investissement 2016, quelques décisions modificatives qui ont une portée très limitée et quelques opérations nouvelles. Alors dans le détail, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce budget supplémentaire ? Nous avons supprimé certaines dépenses. Donc 141 000 euros de dépenses supprimées, en particulier la rémunération du délégataire pour notre stationnement sur voirie pour 120 000 euros. Je vais l'expliquer dans quelques minutes. Nous avons quelques dépenses nouvelles, l'augmentation de notre contribution au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales pour 150 000 euros, des subventions accordées au club pour leur bonne performance aux Coupes d'Europe pour 185 000 euros, et puis l'augmentation de périmètre de Constellation qui nous induit à dépenser 240 000 euros de plus, dépenses couvertes par des ressources externes en contrepartie. Toujours sur le plan des recettes, on a eu quelques mauvaises nouvelles quand même. Sur ces mauvaises nouvelles, donc, on a une baisse de un peu plus de 300 000 euros des recettes tarifaires et de la CAF par rapport aux crèches, à cause de la modification du mode de calcul de la CAF. Une erreur de l'UEM pour 550 000 euros sur la taxe sur l'électricité. Bah nous encaissons ce que l'UEM nous donne. L'UEM le calcule, l'UEM s'est trompé sur le calcul de la taxe, on régularise. On a une recette de délégation du service public relative au stationnement, donc là on perd 494 000 euros de recettes. Alors l'explication donc, de cette perte de recettes, elle est due pour un quart à la mise en œuvre de l'heure de stationnement gratuite, puisque cette heure de stationnement gratuite nous coûte 150 000 euros, donc de recettes qu'on ne percevra pas. La baisse de capacité du parking de la cathédrale durant les travaux d'aménagement fait qu'il y a eu moins de stationnement pendant ces travaux, donc on encaisse un peu moins là-dessus aussi. L'incident du premier étage du parking de la République inaccessible pendant les travaux de sécurisation et la mise en place des nouveaux horodateurs, puisque tout a été changé sur l'ensemble de la ville, qui a pris un peu de retard. Donc cet ensemble-là se traduit par 494 000 euros de recettes que nous n'aurons pas, qui sont un peu compensées par le fait que nous ne rémunérerons pas le délégataire à hauteur de 120 000 euros. Donc c'est un coût de 370 000 euros. Nous avons aussi quelques recettes nouvelles avec quelques bonnes nouvelles, dont une qui est l'ajustement des recettes fiscales et des dotations, puisque la DSU augmente de 1,3 million d'euros du fait d'une modification du mode de calcul de la DSU. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une ressource pérenne. C'est-à-dire qu'on est certain maintenant de ce montant de DSU pour les années futures. Une recette relative donc à la convention avec Metz Métropole pour 812 000 euros, compensée par des compensations, des dépenses compensées avec l'agglo. Voilà. En investissement maintenant, quelques dépenses nouvelles, donc il y a des modifications dans les travaux que nous avions envisagés, en particulier pour la poste de Borny et pour le restaurant scolaire de l'école de la Seille, qui vont coûter un peu plus cher que prévu, puisque l'augmentation c'est entre 7 et 10% de plus. C'était des travaux sur de l'existant. Bon, il y a toujours des impondérables. Là, ces impondérables sont relativement limités. Les crédits de paiement de l'Agora qui arrivent, et puis une bonne affaire avec l'acquisition de véhicules électriques, 170 000 euros, qui a été compensé par une prime de conversion de véhicules pour 100 000 euros. Donc le solde est relativement intéressant pour nous, puisque c'est 70 000 euros pour 11 véhicules électriques achetés, ce qui est intéressant. Voilà, en termes de recettes, pour les investissements, pardon, dépenses et recettes pour les investissements. Ce qu'il faut surtout retenir de ce budget supplémentaire, c'est que nous n'augmentons pas le périmètre de nos dépenses, puisque ça joue sur 2% du budget, mais c'est beaucoup de reventilation. Donc nous n'augmentons pas le périmètre de nos dépenses. Et surtout, nous diminuons les emprunts 2017 de 2,7 millions d'euros. C'est-à-dire nous affectons l'essentiel des fruits de la bonne gestion 2016 et de la maîtrise budgétaire 2017 qu'on voit maintenant au mois de juin. Nous affectons donc les fruits de ces efforts à la diminution du recours à l'emprunt pour 2,7 millions d'euros sur l'année 2017. Voilà.
Merci. Merci. Alors, un ensemble de personnes sont inscrites. Monsieur Gourlot, allez-y, monsieur Gourlot. C'est Madame Grollet qui prend la parole à votre place. Très bien. Allez-y, Madame Grollet.
Oui, Monsieur le maire, on vient d'entendre donc louer donc ce budget supplémentaire, de même que le budget primitif, on avait entendu la même autosatisfaction. Il s'agit donc d'affecter un résultat actant le fait qu'il reste 2 600 000 euros dans les caisses, mais faut-il se vanter d'un résultat excédentaire quand il provient des augmentations d'impôts de 2015, lesquelles ont pris effet l'année suivante ? Faudrait-il aussi vous féliciter de diminuer de 2 700 000 euros l'emprunt qui avait été inscrit au budget primitif de ce fait? Non, bien sûr. En réalité, ces deux résultats démontrent que vous pratiquez la politique de la facilité qui adapte les recettes aux dépenses et non l'inverse comme le font les foyers messins, les entreprises, les commerçants, les artisans et tous ceux qui travaillent avec leur argent. Sur les mouvements des lignes de ce budget, j'aurais juste quelques remarques concernant d'abord le stationnement sur voirie. Donc il y a une baisse de la dépense et surtout une baisse de la recette, 374 000 euros en moins. Je rappelle que nous étions opposés à la création de cette délégation de services publics dont nos concitoyens ne profiteront pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour le moment, l'installation du nouveau système de contrôle et de verbalisation connaît des ratés, semble-t-il. Donc, le manque à gagner est pour le contribuable, pour le coup. On a vu combien votre politique de stationnement était erratique, avec le revirement, le passage de la demi-heure de gratuité à l'heure, en raison de la protestation unanime de ceux qui fréquentent le centre-ville. Il ne s'agit pas, comme on peut le lire aujourd'hui dans le journal, d'un coup de pouce aux commerçants, mais plutôt d'une maigre compensation à une politique générale qui fait fuir les clients du centre de Metz. Et le tout festif, qui sait certes venir du monde, produit aussi l'effet inverse quand la circulation, puisque c'est le sujet, est bloquée durablement dans les rues adjacentes, je pense notamment à la rue des Jardins. Le parking cathédrale a été envisagé par certains pour l'heure gratuite, mais je ne pense pas qu'il puisse remplacer le stationnement sur voirie, car on sait que beaucoup de nos concitoyens sont rebutés par les parkings souterrains, celui-ci étant en plus d'un accès étroit. Quand on voit la sous-utilisation de la place du marché couvert pour le marché du jeudi, comme pour les terrasses, on se demande l'intérêt d'avoir tout chamboulé. Ces errements ne doivent pas occulter la décision majeure que vous avez prise à ce sujet en octobre dernier en supprimant 1 800 places de stationnement gratuites à Metz à partir de cet été, donc c'est pour bientôt. Il faut bien taxer plus d'usagers pour compenser les suppressions de places, notamment pour installer des conteneurs ou faire des travaux à tire-larigot. Donc au lieu de chercher de l'argent en taxant l'usager, en taxant le contribuable, voire les deux, pour financer des dépenses inconsidérées, il faudrait déjà dépenser mieux, faire les bonnes économies. Donc nous ne soutiendrons pas plus ce budget supplémentaire que le budget primitif que nous n'avions pas voté en raison des mauvaises économies que vous faites, notamment sur le dos du personnel. Je vous remercie.
Merci. Madame Singer, Monsieur Aldrin pour 5 minutes.
Oui, merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, nous refuserons évidemment ce budget supplémentaire. Comme nous refusons votre politique financière et budgétaire depuis des années, qui se traduit par des orientations problématiques pour la ville de Metz, car si nous avons ce discours et cette polémique sur la vente et la cession d'immeubles, c'est tout simplement parce qu'il faut combler les trous que vous avez vous-même creusés. Tout à l'heure, il y a eu le débat sur le bail amphithéotique. Moi, je voudrais juste quand même rappeler, j'ai l'appel à projet, c'est pas marqué la ville cède ou éventuellement loue. C'est marqué, la ville cède. Ça veut dire qu'elle va vendre. C'est la raison pour laquelle nous rejetons en bloc cette politique de cession du patrimoine exceptionnel et que nous ne voulons pas être associés à cette mise aux enchères malsaine telle qu'elle se produit actuellement à Metz. Et monsieur le maire, moi je suis fier d'avoir démissionné dans ces conditions de la présidence de la commission des finances. Car cette fonction était inscrite dans le cadre d'un engagement de transparence que vous avez pris en 2014 et que je considère totalement rompu depuis la semaine dernière et cette commission homérique à laquelle nous avons assisté, avec des insultes, avec un compte-rendu qui ne correspond pas au débat de la commission des finances. Oui, madame Kosik. Oui, madame Kosik, lorsque nous disons « y a-t-il, oui ou non, un appel à projet sur la maison de Rabelais ?» qu'on nous répond « non », et que dans le compte-rendu de la commission des finances, il est marqué Il y a une réflexion qui est en cours. Je considère que les comptes rendus ne sont pas corrects et je l'ai signalé par rapport au débat. Je considère aussi que lorsque l'on demande une liste en février, qu'elle est incomplète, partielle et donc partiale, dans ces conditions, cette fonction ne peut plus être exercée, alors que c'est, je crois, une réelle avancée démocratique que vous avez méprisée. Et, monsieur le maire, je suis extrêmement choqué par le débat que nous avons eu tout à l'heure. Ce déni de réalité. Madame Kosik nous a dit, madame la première adjointe, pardon, oui, tout ça ne touche que le microcosme. Monsieur Darbois nous a dit, oh, ça, c'est la faute de la presse. Moi, ça me fait penser à un candidat à l'élection présidentielle, il y a 2-3 mois, qui ne comprenait pas que ça puisse choquer les concitoyens. C'est le même cas de figure. Il y a un problème extraordinairement compliqué et vous y répondez par le mépris et par l'absence de réponse à la hauteur de la situation. Alors, nous refuserons en bloc ce budget supplémentaire, cette politique financière et cette cession et cette politique de cession du patrimoine parce qu'il faut trouver les 10 millions d'euros d'une situation que vous avez vous-même creusée parce qu'il n'y a plus de réserve, parce que vous avez déjà multiplié par 10 sur les 2 mandats dans vos perspectives la dette et parce que vous êtes acculé face à cette situation. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Il n'y en a pas d'autre. Donc nous voterons contre ce budget supplémentaire.
Merci. Votre expression est la même, Madame Singer. Vous voulez parler aussi?
Ah mais bien sûr, je vais parler. Puis,
alors,
mais j'ai un petit cadeau pour vous, voyez.
Je vous en prie.
Sous le signe du Luxembourg.
Oh non, non.
Je souhaite faire une petite déclaration. Ces 3 dernières années, comme vous le savez, je n'ai jamais mâché mes mots lorsque j'avais quelque chose à dire, car je considère que mon rôle dans cette Assemblée est de représenter bien évidemment les médecins et surtout l'intérêt général des médecins et de notre vie. C'est la seule chose qui m'anime et rien d'autre. Et c'est dans ce sens que vont toutes mes interventions et mes questions qui ont toujours été très nombreuses ces 3 dernières années et auxquelles vous n'avez jamais daigné répondre. C'est dans ce sens aussi qu'en février dernier, je suis intervenue sur la maison Rabelais avant d'intervenir et de vous faire parvenir une lettre le 22 juin dernier, auquel vous n'avez toujours pas répondu. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que tout à l'heure, vous avez indiqué devant cette Assemblée, devant tout le monde, que vous avez reçu 3 courriers. Mais pourquoi n'avez-vous pas parlé et n'avez-vous pas évoqué la lettre que je vous ai moi-même fait parvenir à cette occasion? Je vous ai demandé des choses très précises, que j'ai communiquées notamment à la presse. Où sont justement ces choses précises que je vous ai demandées? Je ne les ai toujours pas reçues aujourd'hui. Alors, au vu des récentes, notamment, déclarations dans la presse, moi, je vous invite grandement, puisque tout à l'heure, vous avez dit que ça n'était pas quelque chose de pertinent à faire, mais moi, je vous invite à prendre contact rapidement, évidemment, avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Pour eux, effectivement, 50 000 euros, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de rien. Votre participation comme associé d'une société luxembourgeoise, depuis l'année dernière, n'est en effet pas indiquée dans la déclaration d'intérêt actuelle en ligne et que j'ai avec moi, justement, et pour ceux qui souhaitent l'obtenir, je me ferai un grand plaisir de leur donner, et qui n'a pas été, évidemment, mis à jour depuis fin 2015. Monsieur le bourgmestre, je vous rappelle que cette déclaration d'intérêt est publique et obligatoire. Elle vise à prévenir la survenance des conflits d'intérêts qui pourraient être d'une nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Et pourtant, vous voyez, à 74 ans, on peut être encore naïf, monsieur le maire. 50 000 euros, ce n'est pas une petite affaire. Alors, passons à l'ordre du jour. Monsieur le maire, avez-vous prévu ou non d'inclure dans ce budget supplémentaire les fonds qui seraient issus de la vente de la maison Rabelais? Je pose la question car effectivement, comme vient de le rappeler Monsieur Eldrin, il y a des rumeurs et visiblement un appel à projet. Ce qui ne figure pas dans la liste officielle des biens en vente. Il n'y a jamais de fumée sans feu, vous le savez très bien. Alors, soyons francs, vous avez prévu quoi? De la vendre quoi? 150 000, 200 000 euros? C'est une somme, certes, non négligeable, mais est-ce que 200 000 euros face à des biens exceptionnels qui font partie de notre patrimoine, comme l'est notamment cette maison Rabelais?
Merci de conclure, madame.
Trouvez-vous
s'il vous plaît.
Cela normal? Pas moi. En tous les cas, lorsque vous aurez tout vendu, hein, parce qu'à mon avis, évidemment, c'est votre objectif, c'est de tout vendre, vous allez faire quoi? Vous allez faire le marchand de tapis en toquant aux portes des gens? Monsieur le maire, ayons ensemble une attitude digne, parce que pour le moment, ce n'est pas du tout ce que je vois. Ne balançons pas notre patrimoine pour des erreurs de gestion. Bref, faites appel à la compétence plutôt qu'à des investisseurs luxembourgeois. Sachez en tous les cas que je m'opposerai toujours à toutes les ventes de notre patrimoine à caractère exceptionnel. Je vous remercie.
Merci, madame. Essayez de respecter le temps de parole. Monsieur Lebeau, vous avez 10 minutes, comme pour à chaque point.
Oui, ça, c'est la conséquence de l'arrêt de
allez-y,
la Cour.
Allez-y.
Non, mais non, j'ai le droit de parler 10 minutes, donc je m'exprime. Donc, je dis juste, c'est la conséquence de l'arrêt de la Cour administrative d'appel qui dit simplement que la commission des présidents n'a pas de possibilité de diminuer le temps de parole d'un conseiller à moins de 10 minutes, s'il le souhaite.
Même
quand il est isolé. Donc, aujourd'hui, j'invite toutes les personnes qui veulent s'exprimer de demander au président donc de l'Assemblée, au maire de Metz, 10 minutes de temps de parole. C'est une décision et vous pouvez faire un pourvoi en cassation si vous trouvez que l'arrêt est mal rédigé et il n'y a aucun problème là-dessus. Concernant le budget supplémentaire, j'ai écouté avec une attention toute particulière Jean-Michel Toulouse, qui est toujours assez intéressant dans ses analyses. Et je reviens sur un point essentiel, la dette. Monsieur Toulouse se réjouit de la diminution de la dette de 2,3 millions. Il oublie 2,7 millions, excusez-moi, c'est tout à fait exact. Il oublie le principal, les 20 millions. Et c'est quoi 20 millions d'augmentation de la dette? Alors j'ai fait des recherches, puisque Monsieur Toulouse a sûrement oublié de faire des recherches. C'est la plus grande augmentation de l'encours de la dette depuis combien de temps, Monsieur Toulouse? Ça, c'est une question. Depuis combien de temps la ville n'a pas eu besoin d'aller à un encours de dette de plus de 20 millions? Eh bien, je peux vous le dire, ça n'a jamais eu lieu de toute l'histoire de la ville d'avoir recours à 20 millions d'euros. Alors, quand on réduit de 2,7 millions d'euros, alors on peut dire que c'est bien. Mais la catastrophe, elle reste dans les 90%. Elle reste dans la tendance. La tendance, elle est laquelle? Celle que j'ai énoncée depuis le premier jour de votre second mandat. C'est qu'à la fin de la mandature, nous serons à 100 millions d'euros de dette. Mais en plus, qu'est-ce qu'il faut ajouter? La vente du patrimoine immobilier. Parce que maintenant, je crois que ça commence à savoir que vous vendez du patrimoine immobilier. Et pas, alors, modestement, j'essaye de freiner cette vente éhontée du patrimoine. Et ça me coûte. Et ça me coûte, comme le dit le maire de Metz, ça me coûte cher. Mais j'agis. J'agis dans l'intérêt général de la ville. Et je vois que Patrick Thiel revient sur un point que j'ai demandé sur la vente du 2 en 4 en Fourniru, d'aller sur un bail amphithéotique. Et si on avait mis un bail amphithéotique, jamais nous serions en cour administrative d'appel et on aurait trouvé un terrain d'accord avec l'artisan de la pâtisserie Jean. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, quand on dit on fait cette année, on reporte le bénéfice de l'année dernière, ce qui permet d'équilibrer, diminuer la dette. Ce qu'on oublie, c'est qu'en 2016, on a augmenté pour 1,3 million d'euros, excusez-moi, la fiscalité. Ça, ils viennent d'où? C'est la fiscalité, c'est la hausse de la fiscalité que vous avez décidée en 2015, qui se reporte sur 2016, et dont l'excédent vient impacter le budget supplémentaire de 2017. Donc, aucune bonne gestion. La preuve en est que la mauvaise gestion, elle est patente. Des retards dans la mise en place sur le délégataire. Mais c'est la faute à qui du retard? Du délégataire? Alors, les 120 000 euros, je pense qu'elles ne devraient pas incomber au résultat de la ville, mais incomber au délégataire. Qu'est-ce que fait l'adjoint pour négocier avec le délégataire pour que l'impact soit pris en charge par le délégataire? Ensuite, une politique qui va vers une augmentation de la taxe d'habitation de manière indirecte. C'est quoi l'augmentation de la taxe d'habitation indirecte? C'est que les gens qui habitent en bas de Queuleu, au Sablon, vont devoir payer 224 euros de taxes d'habitation supplémentaires. Comment? En prenant simplement un abonnement annuelles pour parquer leur véhicule. Jusqu'à présent, c'était gratuit. S'ils prennent un abonnement annuel, c'est 224 euros supplémentaires. En fait, vous êtes un peu le socialiste qui ne fait pas du social. Parce que vous attaquez un quartier qui est très social, qui est le quartier du Sablon, où il y a énormément de classes moyennes et de gens un peu en difficulté, et vous les taxez de manière énorme. 224 euros supplémentaires pour garer sa voiture. Voilà les conséquences. Et pourquoi vous faites ça? Pas par plaisir. Parce que vous ne maîtrisez pas les dépenses. On continue à dépenser comme s'il n'y avait pas de crise financière. Ah oui, il y a eu le mirage Macron, où tout le monde croit que tout va bien. Mais maintenant, après le mirage Macron, on s'aperçoit que le déficit s'envole. Et ici, c'est quoi? C'est la dette qui s'envole. C'est la fiscalité qui s'envole. Et à la fin du second mandat du maire actuel, qu'est-ce qu'on va avoir? L'ardoise à payer. Et l'ardoise à payer, ça sera quoi? C'est que le prochain maire n'aura plus aucune marge de manœuvre. Plus de marge de manœuvre sur la dette, plus de marge de manœuvre parce que tout l'immobilier sera cédé, et il sera contraint, s'il veut mener une politique, d'augmenter la fiscalité. Voilà les conséquences de la politique menée par l'équipe actuelle. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Il vous reste 4 minutes.
Vous savez quoi? Je vous les donne. Royal.
Vous êtes très, très, très généreux et tout le monde est heureux d'avoir 4 minutes de répit. Merci. Monsieur Darbois.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, depuis quelques mois, en collaboration avec Démocratie Participative, la mission Développement durable et solidaire recueille les propositions de solutions lesquelles permettront l'écriture de notre troisième agenda 21. Ça va sans dire, mais c'est encore mieux en le disant, monsieur le maire, chers collègues, qu'il ne s'agit pas de faire un catalogue de demandes du groupe des écologistes, mais des propositions émanant des citoyens de la ville de Metz, de quelques acteurs du territoire et de nos partenaires. Démocratie, transversalité, il le faut. 4 rendez-vous sous forme d'ateliers dynamiques se sont déjà déroulés. Les prochains rendez-vous avec les partenaires et les habitants auront lieu à la rentrée, en septembre. Autant vous dire que ça marche bien, même très bien, et que l'on voit émerger des idées pour notre ville, mais élargies à la métropole, car aujourd'hui, nous raisonnons bien évidemment métropole. Les sujets de la ville de demain sont larges, mais je peux déjà dire que les sujets comme l'urbanisation, et nous travaillons avec le pôle urbanisme dans le cadre de l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable, les déplacements, les échanges commerciaux, la santé, sont des sujets qui semblent faire consensus, pas que. Des solutions émergent. Mon sentiment est qu'en matière d'écologie, les citoyens souhaitent réellement faire avancer les choses. Néanmoins, il y a encore beaucoup à faire dans les instances politiques, pourtant représentatives de ces mêmes citoyens, pour que les solutions se concrétisent. Et ce sentiment-là, venu du citoyen, est important car il nous donne la force, à nous les écologistes de ce conseil municipal, de poursuivre notre volonté de faire que la ville de demain soit en pointe sur les domaines de l'écologie urbaine. Et je pense bien sûr à la Cité européenne de l'écologie animée par Marianne Isler-Béguin que nous installons au cloître des Récollets et qui sera un outil déterminant de nos projets. Nous voulons que notre territoire soit en pointe, non pas pour recevoir des labels, des médailles, des hochets que l'on accroche dans nos bureaux comme des trophées pris à d'autres territoires. Ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. Nous voulons, et cela en concertation et avec l'acceptation de nos concitoyens, d'une ville qui aura vraiment préparé un avenir viable et vivable pour les générations futures. Ça reste notre priorité. Bien sûr, il s'agit essentiellement de travailler de concert sur le thème de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique. Il fut un temps où il a fallu convaincre que le climat changeait. Il a fallu convaincre que les pratiques humaines y étaient pour quelque chose. Ce temps est révolu, tout le monde est convaincu, sauf quelques Trump égarés. Aujourd'hui, il faut que nos pratiques, nos habitudes, notre façon de vivre tiennent compte de la donne climatique, c'est vital. C'est cette phase d'acceptation que nous mettons en route ici, et je peux vous redire que oui, les citoyens prennent conscience de la gravité de la situation climatique, mais que dans le même temps, l'intelligence collective, autrement dit nos concitoyens, propose des solutions acceptables. Nous devons l'entendre et prendre les décisions nécessaires. Bien sûr, je vois tous les outils, les machins que les uns et les autres mettent en route ici et ailleurs, réunionnites entre experts, élus, etc. Tout ça, c'est bien. Ça donne l'impression de travailler, ça occupe surtout, pourquoi pas, mais personnellement, ras-le-bol. agissons concrètement et avec de vrais gens. Et c'est ça que nous faisons ici et concrètement. Voilà un petit peu pour mon mouvement d'humeur, mais vous savez bien, monsieur le maire, chers collègues, que si je dis cela, à ce point du budget supplémentaire, c'est pour dire qu'il faudra que les budgets liés à l'écologie urbaine soient musclés. Autrement dit, monsieur le maire, chers collègues, c'est bien une feuille de route pour les prochaines années que nous mettons en œuvre et que je proposerai avant la fin de l'année. Et qui dit feuille de route, dit moyens humains, moyens financiers, ça va de soi. J'ajoute qu'au travers de TEPCV, ça veut dire Territoire Énergie Positive pour la Croissance Verte et des certificats d'économie d'énergie, nous avons su, Mission Développement Durable et Solidaire, récupérer 1,7 million d'euros. Je vous remercie.
Merci, monsieur Cambianica.
Oui, monsieur le maire. Contrairement à ce que dit monsieur Legault, qui continue de tenir sa lorgnette à l'envers, ce n'est pas la perspective de gain sur le stationnement qui nous guide, alors qu'il s'agit de santé publique, d'équité et d'attractivité. Je parle là de la politique de stationnement qui a été évoquée dans le point fait par monsieur Toulouse. En effet, pour la santé publique, il s'agit de mieux partager l'espace entre les voitures et les autres modes de transport moins polluants. Pour l'équité, il s'agit de ne pas faire peser que sur les médecins l'entretien des voiries. Pour l'attractivité, il s'agit de permettre au commerce de fonctionner. Et d'ailleurs, le meilleur exemple en est, c'est qu'on n'a pas recherché des gains lorsque l'on a mis la gratuité d'une heure sur les parkings qui entourent la cathédrale et qui concourent à une des zones les plus denses d'activités commerciales. Donc, je souscris aussi aux propos de M. Darbois qui dit que nous devons encore renforcer les moyens mis en œuvre pour assurer le développement durable et la pénétration de l'écologie dans la ville. Je vous remercie.
Merci.
Oui, monsieur le maire, si vous permettrez, je ferai une seule intervention sur les points 2 et 3. J'avais demandé de prendre la parole au point 3, mais je vais lier les deux interventions. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué de porter une appréciation sur un budget quand on n'a pas la réelle connaissance des recettes. On vient d'avoir un débat franchement médiocre par rapport au point sur la cession de l'immeuble, l'ensemble immobilier Place de la Comédie. Moi, je suis extrêmement choquée par la malhonnêteté dont vous avez fait preuve, je vous le dis. C'est pas la première fois, mais je peux vous dire que vous ne sortez pas grandi de cette affaire, monsieur le maire, que ce sera très, très difficile de lever la suspicion dont vous faites aujourd'hui l'objet avec un tel comportement. Pour parler du point qui nous intéresse, effectivement, moi, je souscris à ce qui a été dit concernant cet excédent budgétaire. Ça ne s'appelle pas de la bonne gestion lorsqu'on s'est permis d'augmenter la fiscalité et lorsqu'on s'est permis d'augmenter les taxes diverses et variées depuis votre arrivée en 2008 et tout particulièrement en 2015 avec plus d'un million d'augmentation de la fiscalité. Pour moi, ça ne s'appelle pas de la bonne gestion. Je voudrais, si vous me le permettez, insister sur deux points. Tout d'abord, les recettes de stationnement qui sont en baisse, on vient d'en parler. 500 000 euros effectivement de diminution. A priori, il y a quand même 120 000 euros qui seront compensés par la diminution de la rémunération du délégataire. Mais enfin, c'est quand même 380 000 euros de moins pour la ville. Alors moi, je suis assez d'accord avec ce que disait M. Cambianica. On ne cherche pas à avoir des recettes supplémentaires forcément. Enfin, pour moi, les explications que vous donnez ne sont peut-être pas les bonnes. Peut-être. Si on écoute les commerçants, si on écoute les personnes qui vivent à Metz, peut-être qu'il y aurait une diminution de la fréquentation du centre-ville. Et à mon avis, ça ne va pas s'arranger dans les mois qui viennent. Alors c'est vrai que l'affluence, elle est forte le soir. Elle est forte le soir, notamment lorsqu'il y a des animations, etc. Et vous savez aussi, elle est forte le soir parce que le parking, c'est pas cher le soir. Et ça fait venir du monde le soir. Le stationnement, aujourd'hui, est trop cher en ville, en centre-ville. Il y a à peu près 4000 place de stationnement sur voirie qui étaient gratuites précédemment, qui sont devenues payantes depuis votre arrivée. Ça n'est pas anodin dans la fréquentation du centre-ville. Et lorsqu'on voit des recettes en baisse, on ne se dit pas que c'est forcément la faute aux aléas, etc. On se pose la question de la fréquentation du centre-ville et de la corrélation entre cette diminution et la diminution des recettes. Il y a eu un article d'ailleurs très récemment
dans le Républicain Lorrain qui ne faisait que confirmer ce que nous pensons sur les difficultés de redémarrage du centre Saint-Jacques. Tout le monde le voit, il suffit d'y aller pour compter le nombre de cellules vides. Ça devait redémarrer, ça devait redynamiser le centre-ville. Moi, j'attends, j'espère beaucoup. Madame, laissez-moi, je ne vous interromps pas, je vous demande de ne pas m'interrompre. Donc je pense qu'il faut vraiment retravailler là-dessus. Et une proposition avait été faite, on en a reparlé d'ailleurs en commission des finances, c'était d'étudier la gratuité une heure en parking souterrain dans le parking de la cathédrale. Alors cette étude, elle ne me semble pas avoir été réalisée. Pourtant, ça fait plusieurs fois qu'on le demande. On nous dit que c'est compliqué. On vous demande instamment de faire cette étude pour voir l'impact que cela aurait. Et puis alors un autre point dont je me permets de vous parler ici parce que ça aurait forcément des incidences budgétaires. Je parlais de la réforme des rythmes scolaires, dont c'est un débat dont beaucoup de communes se sont emparées autour de nous. Débat qui a été donc vu dans les derniers conseils municipaux. Et évidemment, moi j'aurais aimé connaître votre position par rapport à ça parce que ce n'est pas sans incidence sur le plan budgétaire. Il y a un décret donc qui est un décret du 27 juin qui est paru au journal officiel du 28 juin qui donne la possibilité aux maires de revenir sur cette semaine de 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires. Alors chez nous, c'est un peu l'omerta, personne n'en parle, je ne comprends pas bien pourquoi. À titre personnel, moi je pense que ça devrait faire l'objet d'un débat. Et surtout, alors c'est vrai qu'il y a des il faut quand même. Ben non, je ne sais pas pourquoi vous dites que non. Le débat a eu lieu. Pardon ? Non, mais en débat en conseil municipal, vous savez que ça peut se faire aussi en conseil municipal. Les autres, ils font ça. Ça s'appelle la démocratie, vous voyez ? En conseil municipal. Bon. Alors, je dis juste que ça a des incidences budgétaires parce qu'a priori, on devrait perdre l'aide. Monsieur le maire, laissez-moi parler, s'il vous plaît.
Dépêchez-vous.
Perdre... Non, j'ai le droit à 10 minutes, monsieur le maire. On devrait perdre. Eh oui, je suis désolée, c'est comme ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est le juge qui le dit. Alors, ça nous ferait perdre le cofinancement de l'État, a priori, qui finançait 50 euros par élève les activités périscolaires. Je voudrais donc savoir les incidences que cela va avoir si nous restons sur la semaine de 4 jours. Par ailleurs, le ministre préconise une aide aux devoirs. Une aide aux devoirs, vous savez, c'est le truc dont je vous parle depuis des années. Vous étiez contre. Vous avez vu que là, le ministre, moi je le trouve formidable, ce ministre. Il est vachement bien, le ministre Blanquet. Il est très très bien, il parle de l'aide aux devoirs. Donc je voulais savoir comment vous alliez mettre tout ça en place par rapport aux activités périscolaires qui existent aujourd'hui. Et puis enfin, dernier point, les cases de CP et de CE1 doivent être allégées dans les quartiers défavorisés. Alors vous allez faire comment? J'espère que vous n'allez pas mettre les paravents. Ça, c'était une grande idée d'une députée macroniste qui a parlé des paravents, mais ça ne me semble pas complètement satisfaisant.
Madame.
Monsieur le maire, j'ai 10 minutes.
Non, vous n'avez pas 10 minutes, vous êtes inscrit pour 3 minutes.
Et donc, je voudrais que vous me...
Vous avez demandé 3 minutes, respectez votre demande.
Je voudrais que vous me... 3 minutes sur chaque point, ça fait 6. Donc, je voudrais que vous répondiez sur ces différents points, parce qu'effectivement, il y a des incidences budgétaires. Vous disiez l'autre jour, ce sont des choix de gauche de faire de la semaine de 4 jours. Non, ce ne sont pas des choix de gauche de faire la semaine de 4 jours. C'est quelque chose d'extrêmement pragmatique. Ça marche ou ça ne marche pas. Les parents sont heureux, les enseignants sont heureux, les enfants sont fatigués ou pas. Mais je pense que c'est là où on devrait avoir le débat. Et excusez-moi de vous dire qu'en tant que conseiller municipal, on aimerait bien quand même participer à ce débat. Ça me semble quand même être extrêmement important pour la population messine. Je vous remercie.
Merci, monsieur Lecadir.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, cela fait 3 heures qu'on vous écoute. 3 heures. 3 heures qu'on écoute notre opposition, être dans une forme... Tu peux te taire ? Ah, merci. Hein. Donc ça fait 3 heures qu'on vous écoute, débiter votre discours rempli d'aigreur, de suspicion, de procès d'intention, d'une forme de violence, de caricature. Ça fait 3 heures qu'on est là-dedans. En réalité, la gestion de la ville ne vous intéresse nullement. Puisque vous n'avez aucune vision sur la gestion de cette ville. Il suffit de voir sur tous les sujets principaux qui vous concernent vos multiples positions contradictoire sur tous les sujets. Vous êtes dans une incohérence totale. Et la seule chose qui vous intéresse, c'est de faire le cirque. Et l'exemple parfait qui est un scandale absolu. Scandale absolu. Vous demandez une commission. Vous demandez une commission. On vous la donne. Et à la virgule près, vous renoncez. Vous pouvez vous taire, madame ? Taisez-vous, ça vous fera du bien. Taisez-vous, je suis en train de parler.
Madame Singer,
taisez-vous.
On vous a écouté.
Taisez-vous.
Maintenant, laissez écouter monsieur Lecadire, s'il vous plaît.
Taisez-vous, parce que ça suffit, ça fait 3 heures qu'on vous écoute. Nous attaquer, nous caricaturer, demander une commission dans laquelle vous refusez de siéger, ça suffit. Ça suffit parce qu'à bout d'un moment, on est dans le cirque absolu. Et vous ne rendez absolument pas service à la fonction d'élu, permettez-moi de vous le dire. Parce que la ville ne vous intéresse pas. Gérer cette ville, l'améliorer, travailler pour son rayonnement ne vous intéresse pas. Pire, vous empêchez, à l'exemple de la pâtisserie Jean, des investisseurs de travailler. Vous les empêchez de travailler. C'est un pur scandale. Permettez-moi de vous le dire. Permettez-moi de vous le dire.
Madame Singer, s'il
enfin,
vous plaît.
Et enfin, je voudrais quand même dire un mot sur l'attitude de certains élus qui, en réalité, sont dans la posture, dans l'opposition stérile. Et quand ils ont une responsabilité pour travailler dans l'intérêt de la ville, ils n'en font rien. Ils n'en font rien. Permettez-moi de vous dire que sur un projet comme Constellation, la région, l'Europe, Metz Métropole, des dizaines d'entreprises nous aident et nous accompagnent parce que c'est l'intérêt majeur de cette ville. Il y a un acteur absent ici, c'est le département de la Moselle. Mais que faites-vous, madame ? Vous êtes la deuxième vice-présidente de ce département. Que faites-vous ? Vous êtes dans la posture. Travaillez pour Metz. Cherche, aidez-nous à trouver de l'argent. Ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est faire votre cirque. Et c'est un scandale.
Merci. Merci. Je pense que ce débat sur le budget supplémentaire aurait mérité un peu plus de rationalité. Vous pouvez arrêter le chronomètre, s'il vous plaît. Merci. Je pense que je ne me prends pas pour Jupiter. Je suis simplement le maire et j'essaye de le faire. Je voudrais vous dire, à un moment où ça mérite un peu d'attention, de respecter cette assemblée, de ne pas en permanence essayer de mettre la suspicion sur les personnes. Je me suis exprimé en ce qui me concerne. Vous savez, je suis dur à cuire et on ne me fera pas passer pour un gredin. Mais il est vrai, le résultat est là, et je l'accepte, parce que finalement, c'est le lot de tout responsable politique, d'être suspecté. Tout à l'heure, Richard Liogé a parlé. Il a dit qu'il avait souffert d'allusions de toute nature. Chaque fois que quelqu'un m'a parlé de Richard Liogé, je vous le dis, je lui ai demandé de me mettre par écrit ce qu'il me disait et je l'ai envoyé chez le procureur. Parce que dire du mal des gens, avancer des suspicions, moi j'assume complètement ce que je suis et ce que je fais, mais le vrai sujet c'est d'en faire trop et de ne pas dire ce qui est vrai, de façon à essayer de détruire. Et je pense que, madame, je ne vous vise pas. Je vous regarde parce que vous êtes devant moi, il faut bien que mes yeux soient quelque part. Je voudrais vous dire que le vote de ce budget devrait être, j'espère, supplémentaire, devrait être le dernier épisode de ce conseil. Effectivement, monsieur Lecadire a raison, ça fait 3 heures qu'on est sur ces sujets-là. Hein, avec chacun dit, j'ai le droit à 10 minutes. Imaginez un peu, si chacun prend 10 minutes, ce qui nous restera à faire, tout simplement, à un moment donné, un jour, il n'y aura plus le quorum parce que les gens en auront assez. Hein, et puis, on sera obligé le lendemain de venir et à une vingtaine, on terminera le conseil municipal parce que là, on aura le quorum quoi qu'il arrive. Et ce ne serait pas à l'avantage de notre assemblée. Donc moi, je demande à chacun de se ressaisir et de rester dans les limites de ce qui est raisonnable. Je suis un démocrate. Je peux vous dire que j'étais dans l'opposition longtemps. Jamais l'opposition a parlé autant que maintenant, parce que moi, j'étais dans l'opposition. Hein, j'y ai été longtemps, entre 83 et 2008. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Hein. Et le respect, d'abord, de l'exécutif était bien plus grand, d'une part, et deuxièmement, nous avions les temps de parole qui étaient limités et qui étaient raisonnables. Ça ne m'empêchait pas, d'ailleurs, d'exister, je vous rassure. Je dis ça à l'opposition. Hein, parce qu'effectivement, on a un problème avec l'opposition, c'est que maintenant, l'opposition est très divisée, puisqu'on a des individualisés. On a des individualités avec des points de vue différents. Moi, je les respecte. Hein. On va réorganiser, je vous l'ai dit, l'Assemblée de façon à mettre chacun des opposants isolés, disons, dans une position isolée. Mais c'est compliqué de gérer cette situation. Mettez-vous à ma place. Hein. Alors, voilà, on en arrive là. Je vais mettre aux voix tranquillement ce budget supplémentaire. Si vous voulez, si on part sur les questions posées, c'est on est dans un budget supplémentaire, on reviendra sur toutes les questions scolaires, culture, tout ça tranquillement, mais n'essayons pas de mettre tous les sujets sur un budget supplémentaire qui représente un peu plus de 1% de la masse budgétaire de la ville, qui est simplement un épisode qui se passe plutôt bien. On a connu pire depuis que je suis là, donc on ne va pas se plaindre d'avoir des conditions qui sont plutôt meilleures. C'est ce que, puisqu'on parle de la presse, c'est ce que la presse a remarqué, et effectivement, c'est plus commode pour moi d'avoir un budget supplémentaire comme ça que d'avoir des budgets supplémentaires qui étaient difficiles, comme ça nous arrivait certaines années. Voilà. Alors, avant de passer au vote, on m'indique une petite rectification, non pas sur le score de M. Combianica, mais sur le nombre de votants. D'ailleurs, je les avais comptés, il y avait 53 votants, et non pas 52. Et donc, comme le nombre de blancs et nuls était de 27, le suffrage exprimé sont 26, et la majorité de 13, et M. Combianica a eu 26 voix. Voilà. Il a eu 26 voix, ça n'a pas changé. Simplement, c'est que c'est le nombre de votants qui était de 53, et donc il a eu 26 voix et non pas 25. Voilà. Voilà. Alors, je vous demande maintenant de mettre aux voix. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions à ce budget supplémentaire? Une opposition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec une 12 oppositions. Des abstentions, il n'y en a pas. Le point est adopté, je vous remercie.